Oui, c'est une très bonne question. On a déjà parlé pendant 30 secondes de cela, donc c'est une très bonne question. Parce que d'abord, j'affirme, et j'y crois de tout mon cœur, que l'on peut avoir l'assurance de son salut. Je pense qu'on le sait, à la fois par les promesses de Dieu, par le fait que le Saint-Esprit nous donne cette assurance. Donc, on peut avoir l'assurance du salut. Mais si je pose la question de l'autre côté, c'est est-ce qu'on peut avoir l'assurance du salut de quelqu'un d'autre? C'est ça le problème. Parce qu'on peut le savoir pour soi-même. Mais le problème, c'est que dès les premiers temps de l'Église, on nous a dit de faire attention. Il y a des personnes mal intentionnées qui risquent de s'introduire dans l'Église. Donc les loups déguisés parfois en anges de lumière. Et il n'est pas toujours facile du premier coup. D'ailleurs, dans Timothée, Paul dit, ils vont se révéler peu à peu. Donc, la question, c'est que, oui, on peut avoir l'assurance de son salut, mais quand il s'agit d'une église, il faut, comme j'ai dit ce matin, le pasteur doit décider peut-être avec l'équipe de responsables qui il va baptiser, il fait de son mieux. Mais quelqu'un peut jouer la comédie. Et parfois, ce n'est pas tout de suite qu'on le voit. Donc, je répète que seul Dieu peut connaître les contours de l'Église, d'autant plus que parfois, il y a peut-être des chrétiens que personne d'autre peut connaître. J'ai entendu des histoires, par exemple, de personnes qui, par la radio ou par Internet, ont entendu parler de l'Évangile, peut-être dans un village caché du Maghreb, dans les montagnes Atlas, un Algérien qui entend l'Évangile et qui y croit. Et peut-être que pendant des années, il ne rencontre pas un autre chrétien, mais le Seigneur le sait. Donc il fait partie de l'Église. Ça va? Merci. Ouais. Bah, d'abord au fond, et puis après ici. Il faut parler fort si on est au fond. D'accord. Bon. D'abord, tout dépend de ce que l'on veut dire par le mot sacrement. Parce que dans certaines traditions chrétiennes, le sacrement, par exemple pour les orthodoxes ou pour les catholiques, a un sens très précis. Et un sacrement, bon, pour l'Église catholique, d'ailleurs, même pour l'Église orthodoxe, je crois qu'il y en a sept. Donc ce sont des choses souvent que seul le prêtre a le droit d'apporter. Si, dans un autre sens, ce sacrement veut dire quelque chose qui nous rappelle une autre réalité, comme le baptême ou la scène, certains utilisent le mot sacrement dans ce sens. Jules Marcinet, par exemple, dans son livre précis de doctrine chrétienne, a un chapitre qui s'appelle le sacrement. Et il se défend d'utiliser ce terme en disant que moi je l'utilise dans le sens que il y a le baptême qui rappelle mon acte passé de conversion et la scène qui rappelle l'acte donc de Jésus sur la croix pour nous. Donc c'est quelque chose qui renvoie à une plus grande réalité. Personnellement, je me réfère beaucoup à ce que ce texte, les plusieurs textes où Jésus dit, fais ceci en mémoire de moi. Donc, on le fait surtout en mémoire de ce que Jésus a fait pour nous. Je lisais un livre récemment qui disait que les catholiques parlent de présence réelle, donc Jésus est vraiment dans le pain, mais on n'est pas obligé de croire à l'absence réelle. C'était sa façon de le dire. Donc, dans ce sens, c'est pour se souvenir, oui, c'est pour se souvenir, mais en même temps, ce souvenir nous rapproche de Christ qui est là, parmi nous. Donc, moi, je préfère rester avec cette façon plus simple de dire les choses. Oui, hein.
Ma question est en rapport avec la distinction entre Église universelle et Église locale. Au niveau de l'Église universelle, je comprends bien que c'est toutes les tribus, tous les chrétiens dans le monde, toutes les langues. Mais au niveau de l'Église locale, j'aimerais savoir, est-ce que c'est en rapport avec une religion, par exemple le mouvement des chrétiens évangéliques, baptistes, évangéliques, catholique, ou alors c'est un regroupement des chrétiens de n'importe quelle origine qui se retrouvent ensemble, qui prient ensemble.
Oui, mais le dernier point, des chrétiens qui se retrouvent dans quel sens, dans quel contexte?
Par exemple, le GBU, c'est pas une église particulière, c'est pas une religion particulière, c'est un regroupement des étudiants croyants,
ouais,
des chrétiens, ouais, qui viennent de tous les horizons, c'est-à-dire de différentes,
ouais,
religions.
Ouais.
Maintenant, il y a aussi les catholiques à part, qui se retrouvent, je ne sais pas, tous les dimanches dans telle église, il y a les protestants, peut-être évangéliques, les baptistes. Alors, est-ce, d'accord, que, quand on parle d'église locale, c'est genre catholique, qui se retrouvent tous les dimanches à l'église catholique de tel quartier,
ouais,
les baptistes qui retrouvent après à telle église tel jour, ou alors comme le GBU, où on retrouve,
d'accord,
tous qui viennent
de l'église. Ok, d'accord. Merci, c'est une bonne question. Bon, d'abord, le plus facile, le GBU n'est pas une église. pourquoi? Parce que dans la liste que j'ai donnée ce matin, il y a un certain nombre de choses qui sont absentes. Donc il n'y a pas le baptême, il n'y a pas la scène, il n'y a pas des anciens diacres, par exemple. Donc il n'y a pas l'accueil de tout le monde. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un de 80 ans qui dit « Moi, je voudrais faire partie du GBU. » On serait peut-être content, mais ce n'est pas vraiment... Attention, je n'ai pas dit qu'il ne peut pas être ami du GBU. mais sur le campus, le GBU est un mouvement d'évangélisation. Donc on prie, on est missionnaire à l'université. Donc, le GBU n'est pas une église. Donc, il y a ce qu'on appelle un certain nombre de mouvements, on dit des fois, para-ecclésiastiques. Donc, par exemple, Marie, qui est d'origine juive, fait partie de quelque chose qui s'appelle Juif pour Jésus. Donc, c'est une association qui cherche à évangéliser les juifs. Mais tout ce qui est para-ecclésiastique, pour moi, fait partie quand même de l'Église universelle, dans la mesure où ce sont des actions faites au nom du Seigneur, comme Paul qui partait avec ses équipes et qui voyageait un petit peu partout. Donc dans ce sens-là, ça fait partie du témoignage apporté au Seigneur. Okay. Maintenant, l'Église locale est un groupe de chrétiens qui se réunissent. Premièrement, donc tu as posé la question baptiste, évangélique, etc. Pour moi, évangélique est un mot théologique qui veut dire qu'il s'agit de quelqu'un qui croit à l'autorité des Écritures et croit que Jésus est son seul sauveur, qu'il est sauvé par la grâce. Donc, ce qui fait que dans le monde évangélique, on a toutes sortes de dénominations, entre baptistes ou frères, ou assemblées de Dieu, pentecôtistes, charismatiques, etc. Ils sont tous partis de cet, on va dire, univers, si on veut, univers évangélique, parce qu'ils ont en commun cette confession de foi. Ils peuvent avoir des coutumes différentes, des pratiques différentes. Et en France, depuis 3 ans maintenant, nous avons le Conseil national des évangéliques de France, qui recouvre 80%, sinon plus, en fait, des évangéliques. Donc, on se retrouve, chacun avec sa façon de faire, mais ce sont les évangéliques. Et donc, dans ce sens-là, on va dire, chacune de ces églises, qu'elle soit baptiste ou pentecôtiste, c'est une église locale. Maintenant, on va aller un peu plus loin. En France en particulier, il y a les églises protestantes, non membres du CNEF, membres de la Fédération protestante. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les églises protestantes historiques. Et au sein de ces églises, il y a une diversité de points de vue. Donc, on peut avoir un pasteur qui est évangélique, dans le sens théologique, parce qu'il croit à l'autorité des Écritures, il sait que Dieu seul peut le sauver. Mais dans la même union d'église, il peut y avoir des pasteurs que l'on dit de théologie libérale, qui vont dire, oui, la Bible, c'est un livre intéressant, qui peut nous parler, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Où Jésus, il est mort pour nous donner un exemple de comment on peut servir les autres et aimer les autres, mais ce n'est pas pour nous racheter. Et donc, dans ce sens-là, la notion d'église locale est un peu plus compliquée. Pourquoi? Parce qu'au sein de l'assemblée qui se réunit, on peut avoir des personnes qui sont sauvées et des personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Donc, je pourrais dire à la limite qu'il s'agit encore d'une église locale. Tout dépend en fait du pourcentage ou du nombre de personnes ou ce qui est dit. Parce qu'on peut avoir une église, par exemple, où il y a les trois quarts des personnes présentes sont des chrétiens évangéliques sauvés, mais le pasteur qui arrive, peut-être en remplacement, je ne sais pas quoi, vient dire tout le contraire. Est-ce que c'est une église? C'est un peu plus compliqué. Et puis, c'est encore plus quand on va vers l'église catholique et l'église orthodoxe, parce que, au fond, bien sûr, il est tout à fait possible que tel ou tel catholique ou tel orthodoxe croit à l'autorité de la parole et croit que c'est par Jésus seul qu'il est sauvé. Mais on constate, primo, qu'il y a un certain nombre de doctrines dans ces églises qui viennent presque contredire, et d'autre part, que un grand nombre des pratiquants le sont plutôt par tradition et non pas la foi vivante personnelle. Donc là encore, est-ce que c'est une église locale? Bon, le Seigneur le sait. Moi, je préfère dire que dans le monde évangélique, on cherche à être sans être parfait, on cherche le mieux à mettre en pratique l'enseignement que l'on trouve dans la Bible. Et donc là, je répondrai sans problème que toutes ces églises évangéliques sont des églises locales. Pour le reste, il faudrait examiner les cas et c'est un peu plus complexe.
Et alors, au niveau, disons, de l'expérience, peut-être ce qui est difficile pour beaucoup d'entre nous, mais moi-même, je l'ai déjà vécu, que je me suis senti un peu contraint à quitter une vraie église locale, quitter, mais pas pour des raisons comme déménagement ou parce que j'étais appelé officiellement.
Ouais.
En fait, j'ai fait semblant, à cause d'un déménagement, des choses.
Là.
mais en réalité, j'étais en conflit avec le pasteur. Et en même temps, j'ai senti que c'était comme le moindre mal, c'est-à-dire que rester aurait causé comme un conflit que je n'aurais pas été capable de gérer. Donc, mais je veux dire, je pense que peut-être tout le monde dans cette salle, à un moment donné, va se poser cette question, même si c'est une vraie église, même si David Brown nous a dit en 2013, il faut juste aimer, même ceux qui sont difficiles à aimer. Mais est-ce qu'il y a des c'est quand qu'on peut se dire c'est légitime de changer l'Église?
OK. Bon. Deux points un peu introductifs. D'abord, tu as de la chance, dans ce sens, que tu peux changer d'église. Quand on est dans une grande ville, il y a toutes sortes d'églises, on peut. Mais j'ai une de mes filles qui habite une toute petite ville où il y a une seule église évangélique. Là, on n'a pas... c'est un peu plus difficile. Donc, bon, c'est quand même un point assez intéressant. Et deuxièmement, il me semble... J'ai discuté avec quelqu'un à table aujourd'hui de cela. Il me semble que même au sein de cet échiquier évangélique, il y a parfois, qu'on peut dire, des accents différents mis sur certaines doctrines où on se sent plus ou moins à l'aise. Et deuxièmement, des façons de faire... où on est plus ou moins à l'aise. Donc, dans ces conditions-là, la diversité humaine, il vaut mieux se trouver dans une église où on se sent à l'aise. Mais une fois qu'on a choisi cette église, il reste quand même le problème de Jean 13, verset 35, c'est-à-dire que même dans une église où on est parfaitement d'accord, aimer les autres n'est pas forcément facile quand même. Donc tout ce que j'ai dit s'applique, mais il est vrai que il y a parfois des styles de louange ou des styles de prédication et on peut faire tout ce qu'on veut, mais on n'arrive pas à se sentir à l'aise. Et encore pire, c'est qu'on aimerait inviter ses amis à venir, mais on dit, bon, je ne peux pas, parce que je ne me sens pas à l'aise. Donc, dans ces conditions-là, je pense qu'il n'y a rien qui dit qu'il faut forcément rester dans son église d'origine. Mais il faut quand même peser un petit peu les pour et les contre, et surtout... Ouais. Peut-être que tu l'as fait, je ne sais pas, mais une certaine transparence à certains moments, quand même.
Oui. Et même, je dirais que le changement a permis aussi un genre de rétablissement de relations avec les personnes avec qui la relation de ministère avait
Je pense que il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons, en fait. Si c'est parce qu'on a un problème relationnel avec quelqu'un, il vaut mieux chercher à résoudre ce problème. Mais si c'est quelque chose de plus fondamental, c'est peut-être une raison. Une question au fond d'abord ? Ben, j'ai pas compris la fin de la phrase. Oui, la Bible dit littéralement « N'abandonnez pas votre assemblée », ce qui veut dire, en fait, c'est un verbe. On devrait traduire « N'abandonnez pas de vous assembler ». Je ne sais pas si quelqu'un a la version du Semeur, là. C'est intéressant de voir comment c'est traduit. Mais...
C'est le rassemblement de
vous-même. Oui, oui. Parce qu'en fait, si on le traduit comme rassemblement ou assemblée, on dit on ne peut pas quitter son assemblée. Mais si on le traduit n'abandonnez pas de vous réunir, ça veut dire que quelle que soit l'église que j'ai choisie, je dois être fidèle à me réunir avec cette église. Sinon, on va le poser comme une sorte de. On peut dire de. De crainte, faut pas quitter son assemblée, mais c'est pas le c'est Hébreux 10
On va l'étudier demain.
Ah bon, mais c'est dans le texte demain. Ah oui, c'est vrai. Quelle est la traduction d'ailleurs que vous avez mis sur le papier là, que j'en ai mis? N'abandonnez pas vos assemblées. Quelle traduction? Second. Alors, dans le Semeur, verset 25.
Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions.
De délaisser nos réunions, voilà, de délaisser nos réunions. Ou d'arrêter de vous assembler. C'est-à-dire, pour moi, le fond, c'est il ne faut pas rester seul en tant que chrétien. Ce n'est pas dit qu'on ne peut pas changer d'assemblée. Bon, bien sûr, si quelqu'un déménage, on est obligé. On a parfois la possibilité de choisir quand on est dans une ville, mais il ne faut pas le prendre, il ne faut pas le faire à la légère. Vraiment, il ne faut pas le faire à la légère. Et même si Marc l'a fait, il ne faut pas le faire à la légère. Mais c'est une bonne question. Donc, voilà. Je pense que l'on ne mesure pas parfois dans quelle mesure on est influencé pour prier, pour chanter, pour prêcher, je ne sais pas, d'une certaine façon. Et on pense que c'est ça la façon biblique de le faire. Alors qu'en réalité, c'est extrêmement lié à sa culture, à sa sous-culture, etc. Et donc, si pour une raison ou pour une autre, on fait d'une certaine façon, et on n'est vraiment pas à l'aise avec cela, on n'est pas en train de remettre en cause l'autorité de la Bible. C'est simplement une question culturelle. Et je pense que depuis un siècle, peut-être un peu moins, on est devenu extrêmement sensible à toutes les questions culturelles. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Il y en a qui aiment chanter le même chant plusieurs fois de suite. D'autres trouvent que c'est ridicule. Alors, comment on fait? Si on trouve que c'est ridicule, on est dans une église où on chante le même chant à plusieurs reprises, qu'est-ce qu'on fait? On ne se sent pas à l'aise. Alors, qui va changer des deux? C'est pas évident, qui va changer? Et là, c'est une question très fondamentale que Paul traite dans 1 Corinthiens 8, 9 et 10. Fort aux frères faibles, aux frères forts. Alors, est-ce qu'il faut dire « je ne fais rien qui cause une pierre d'achoppement pour le frère faible ?» Bon, c'est enseigné. C'est une partie de la réponse. Mais si c'est comme ça, il suffirait d'une seule personne, admettons une vieille dame de 95 ans qui décrète « jouer de la guitare dans la salle de culte me dérange » et on ne peut plus le faire parce qu'il y a une personne qui ne veut pas. On ne peut pas raisonner comme ça. Donc, la fin du raisonnement de Paul, et il arrive dans 1 Corinthiens 10, verset 31, avec le grand principe. Que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Maintenant, le verset qui tue, comme on dit en France, pas ici, mais... bon. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas être une pierre d'achoppement, il ne faut pas être en scandale, ni pour les Grecs, donc je vais traduire autrement, ni pour les Canadiens postmodernes, ni les Juifs, les musulmans très pratiquants, ni pour les chrétiens, l'Église de Dieu. Alors comment faire? Parce que si on devient très religieux, très respectueux, parce qu'on ne veut pas scandaliser un musulman, par exemple, bon, quelque chose que quelqu'un m'a dit, si on est écrit sur sa Bible, si on met des couleurs, ça peut choquer un musulman, parce qu'on on touche la parole de Dieu. Si, par contre, on devient trop légaliste, le Canadien très postmoderne, très tolérant, dit ben, « c'est n'importe quoi ces gens-là, ils ont des cibles de rien du tout qui n'ont pas de sens. » Et ni l'Église de Dieu, donc avec toute la gamme des personnes. Comment Paul s'en sort? Il dit, verset 23, « De la même manière, moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. » Donc il complète trois chapitres, non, 4 chapitres, je ne suis pas fort en maths. 4 chapitres avec la pensée, finalement, je décide par rapport à quoi, qu'est-ce qui va me permettre de mieux apporter l'évangile autour de moi. Ce qui fait que, par exemple, je peux imaginer en région parisienne, une église avec une grosse chorale qui chante du gospel ou je ne sais pas quoi, et certains vont beaucoup aimer ce genre de culte. Donc si c'est comme ça, et si mes amis, ce genre de personnes qui aiment ça, là je me trouve bien. Par contre, si moi, tous mes amis sont amateurs de Jean-Sébastien Bach, par exemple, ils sont des intellectuels un peu philosophes, et je leur demande de venir dans une église comme ça, ça ne va pas les toucher. Donc, en partie, mon choix d'église, ce n'est pas uniquement parce que ça me plaît ou ça ne me plaît pas, mais parce que je me trouve suffisamment à l'aise dans cette église pour que les personnes qui sont naturellement mes amis, je peux les inviter parce que je me sens à l'aise là. Donc, c'est ça, en fait, pour moi, la question fondamentale, je trouve Paul est génial d'arriver à cette réponse à la fin de 4 chapitres sur ces questions de frères forts et frères faibles. Oui, ça n'a pas satisfait.
Ouais. Je vais répondre un peu par rapport à l'étude qu'on avait ce matin. Vous parliez à la fin de l'église multi-créneau. Bon, je me demande jusqu'à quel niveau l'église peut aller pour accepter, pour pouvoir toucher tout le monde. Parce que, bon, on a vu des exemples de jeunesse avec la musique électronique. On a vu certains pasteurs faire des concerts de musique électronique. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une limite quand même? Parce qu'il ne faudrait pas quand même que l'église perde ses fondamentaux. C'est pas la musique électronique. Je ne sais pas si ça va vraiment avec la sainte scène. Est-ce que c'est une musique vraiment qui rend gloire à Dieu? Je ne sais pas. On veut bien que les gens qui ont fait l'église, mais est-ce que l'église a besoin d'aller si loin pour chercher la respect? En fait, je ne sais pas quelle autre.
Oui. La réponse, c'est que je ne sais pas. parce que finalement, c'est une question un peu abstraite dans un sens. Je dirais que je suis pour l'Église multicréneau, pour une raison, je dirais, fondamentale, mais aussi une raison un peu plus concrète. La raison fondamentale, c'est que comme Paul le dit aussi, se faire tout à tous, avec un juif comme un juif, etc. Donc, il y a dans une certaine mesure une adaptation de la façon de faire les choses pour toucher différentes personnes. Ça, c'est clair. La deuxième raison pour laquelle j'aime bien le multicréneau, c'est que ça me permet, par exemple, dans la salle de culte où nous sommes à Paris, ça coûte extrêmement cher. Je pense que 70 personnes dans notre salle de culte, elle est plus que remplie. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je demande de nouveau à tous les membres de l'Église de faire des gros efforts financiers pour acheter quelque chose pour 120 personnes, sachant que si on arrive à 120 personnes, on déménage encore. Ou est-ce que je me dis, l'Église, le bâtiment d'Église n'est pas bien rempli toute la semaine, c'est que le dimanche matin, il y a tout ce monde-là, et le reste du temps, c'est vide. Donc, il vaut mieux avoir de multiples cultes, le dimanche, le samedi, en semaine, différentes réunions, etc. Parce que j'utilise à fond les locaux que j'ai, et si on dégage plus de fonds par les offrandes, c'est plutôt pour embaucher d'autres personnes avec un ministère pastoral ou évangéliste, etc., pour continuer dans ce sens. Maintenant, c'est le choix des différentes personnes. J'ai un ami à Paris qui cherche à créer une très grande église à Marne-la-Vallée. C'est son choix et c'est très bien. Donc il n'y a pas de mal. Mon choix, depuis un certain nombre d'années, c'est de dire je multiplie au sein du même bâtiment et comme ça je n'ai pas à passer tout mon temps à faire des travaux de rénovation et de bâtiment, etc. C'est mon choix. Cela dit, pour moi, la seule chose que j'aimerais quand même ajouter ici, c'est multicréneaux, c'est que la gloire de l'Église, c'est quand même, dans la mesure du possible, d'avoir une gamme de personnes différentes dans chaque rassemblement, à la différence d'un GBU qui est spécifiquement pour les étudiants. Donc, si on fait quelque chose comme nous un dimanche soir, c'est pas pour les jeunes. Par exemple, c'est autant pour tout le monde, mais c'est un autre moment de la. Donc ça, c'est un peu la limite, si on veut, donc, pour moi. Je vais demander, enfin, d'abord à ceux qui n'ont pas encore posé des questions, qui me semble équitable. Voilà. Voilà.
Moi, j'ai deux questions.
Au moins, il annonce au départ, alors que toi, tu ne l'as pas dit. Vas-y.
Première question, c'est de savoir, est-ce qu'une personne peut appartenir à plusieurs églises locales ? La deuxième question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une autre alternative à l'église locale ? Je prends l'exemple de quelqu'un qui, pour des raisons professionnelles, travaille le dimanche ou qui n'est pas disponible à aller à qu'il y a une autre alternative. Je prends l'exemple d'un étudiant et, ou le GBU, ou je sais que le GBU n'est pas l'église, mais je me pose la question. Puis, je sais aussi qu'il y a des gens qui suivent des cultes par internet ou je sais pas. Est-ce que c'est des choses qu'on peut justifier? Est-ce que c'est des situations qu'on peut justifier?
Oui, les cultes par internet, je ne suis pas complètement convaincu. On peut toujours donner, c'est vrai, mais recevoir la scène par internet, c'est un peu plus, plus difficile. Pour le moment, on n'a pas encore perfectionné les choses à ce point. Peut-être ça viendra, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut être membre de plusieurs églises en même temps? Je crois que, a priori, non, parce qu'une des raisons pour laquelle nous faisons partie d'une église, c'est qu'il y a des responsables qui veillent sur nous. Et donc, c'est une question de redevabilité. Des gens qui sont responsables et qui cherchent à veiller sur, donc c'est le sens même d'épiscopos qui a donné évêque. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'occasionnellement, on ne peut pas assister à une réunion dans une autre église. Ça peut facilement se faire. Mais je crois qu'on est membre d'une seule église. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'était...
Les alternatives.
Ah oui, les alternatives. Bon. Moi, je dirais que le nombre de personnes qui auraient besoin de ce genre d'alternatives est relativement peu nombreuses. Quelqu'un qui voyage vraiment tous les week-ends, etc., c'est peut-être pas si... Ils ne sont pas si nombreux que ça. Si c'est le cas, on évoque aujourd'hui toutes sortes de modèles d'église qui ne me satisfont pas parfaitement, mais qui peuvent... Bon, suivre un culte sur Internet de temps en temps. Je ne sais pas. On a le problème en région parisienne. J'ai eu quelques personnes dans mon église précédente et quelqu'un dans mon église actuelle. Parce qu'à l'aéroport Charles de Gaulle, ils ont assez généralisé le travail sur 6 jours. C'est-à-dire que 4 jours de travail, 2 jours de congé. 4 jours de travail, 2 jours de congé. Ça veut dire que si on réfléchit, ça veut dire que quelqu'un qui veut venir à l'église, il va manquer 4 dimanches de suite. Il sera là 2 dimanches, de nouveau 4 semaines de suite, présent 2 dimanches. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour des gens comme ça? Bon, un exemple, justement, c'est le multicréneau. Si on a aussi un culte en semaine le mercredi soir, bon, la personne peut, à ce moment-là, s'arranger peut-être beaucoup plus facilement à assister. Parce qu'on est dans un monde assez complexe, je le nie pas. Mais celui qui veut vraiment assister assez fréquemment à l'église locale, je pense qu'il peut, d'une façon ou d'une autre. Question?
Pour moi, ce n'est pas une question, c'est juste. Bon, je voulais apporter quelque chose par rapport à sa question.
Oui.
Je sais que dans mon église, il y a beaucoup d'étudiants internationaux qui sont là et qui sont membres de leur église dans leur pays. Mais à chaque fois qu'ils sont, par exemple, à Montréal, à l'église, ils sont là comme des aliments et non comme des gens. Donc, dans ce sens, ils ne peuvent pas être membres de plusieurs églises.
Oui. Oui, bon, il y a des situations comme ça, c'est une façon de le résoudre. Hein. Donc, je dirais que le même raisonnement s'applique, c'est qu'il faut être, il faut pas abandonner son assemblée, ses réunions, il faut chercher à être présent le plus souvent possible et se soumettre en quelque sorte à la discipline de cette église. Même si on est membre d'une église en Allemagne ou je sais pas, ou quelque part. Oui. Merci. Au fond d'abord et puis ici.
J'ai une question concernant l'église, un lieu de cheminement vers la foi.
Oui. Bon. Ouais. Bon, par cette expression, je voulais dire quelqu'un qui chemine vers le salut, en fait. Donc, bien sûr, nous, en tant que chrétiens, on va toujours aussi marcher, un verbe qui revient tout le temps dans le Nouveau Testament, marcher avec Dieu, progresser avec lui. Donc, bien sûr, aussi, ça c'est une réalité de l'Église locale. Mais par cette expression, je voulais dire les non-chrétiens, on ne va pas penser que le premier jour ils mettent les pieds dans l'église, soit ils se convertissent ou ils ne reviennent plus. Donc on est beaucoup plus dans l'optus. Parce que la personne, parfois, vient de loin, il ne connaît rien du tout de la foi, de la Bible. Donc qu'est-ce que l'on veut? C'est que qu'on l'accueille bien, qu'on l'aime, qu'on s'intéresse à lui, en espérant qu'il continue à venir et qu'il continue jusqu'à ce qu'il se convertisse. Donc, c'est plutôt plus non-chrétien. Ouais.
Ouais. Ma question est un peu d'ordre général. Par rapport à l'Église universelle, est-ce que vous pensez que les anciens, les pasteurs, est-ce qu'ils doivent rester dans l'orthodoxie traditionnelle ou alors s'adapter un peu à l'évolution du monde par rapport aux non-chrétiens? Je prends par exemple le cas des maladies comme le sida qui ravagent le monde. Est-ce que les pasteurs doivent continuer à indiquer aux gens de pratiquer l'abstinence ou alors ils peuvent dire par rapport à telle situation, on peut utiliser des préservatifs et conseiller les gens d'utiliser les préservatifs, mais ils doivent rester assez traditionnels?
Bon, d'abord, recommander à qui? Je pense que si quelqu'un est chrétien, oui, non, mais d'abord, si un chrétien, on va dire non, il faut l'abstinence. Ça, c'est sûr. S'il s'agit de non-chrétiens, à la limite, on n'a rien à dire. À la limite. Mais on peut dire, parce que un journaliste m'a téléphoné une fois, quand j'étais dans l'Est de la France, il voulait ma réponse. Et donc, quand on a le journaliste, c'est compliqué, parce que si on ne répond pas, il va toujours trouver le moyen de tordre ce que l'on dit pour dire « le pasteur n'a pas voulu se prononcer, hein, etc. » Donc il fallait que je trouve vite la façon de l'exprimer. Donc ce que j'ai dit, et finalement je pense que Dieu m'a inspiré, c'est-à-dire en me posant cette question-là, on est devant une sorte de incendie. La première chose qu'il faut faire, c'est éteindre l'incendie. Donc, que ce soit l'abstinence, que ce soit le préservatif, faisons ça. Mais un vrai pompier, il va aussi savoir quelle était la cause. Et la cause, en partie, c'est parce que quelqu'un n'est pas chrétien, il ne s'est pas converti. Donc, je dis ça pour les non-chrétiens, mais au fond, ce que je veux, c'est un vrai changement de vie. Donc voilà les réponses que j'avais données. Je trouvais juste, même avec quelques années de recul, parce qu'on ne peut pas dire à un non-chrétien ce qu'il doit faire. Mais on peut, et je l'ai dit sur le premier papier ce matin, dire que l'Église peut aussi travailler pour le bien-être de la société. Et parfois, par exemple, pour la manifestation à laquelle nous avons participé à Paris contre le projet de loi de mariage pour tous, il y avait toutes sortes d'associations, il y avait même une association de gays contre le mariage aussi, qui faisait partie de la manifestation. Donc, mais on a dit, on est là en tant que citoyen, parce qu'on croit que c'est pour le mieux pour la société qu'on garde le mariage tel qu'on l'a toujours conçu. Donc ça veut dire, on va être, selon les paroles d'un philosophe chrétien, Francis Schaeffer, co-belligérant. Donc on va se battre avec d'autres sur certains points. Et il y avait aussi des musulmans dans cette manifestation. Cela ne m'a pas gêné dans ce cadre-là. Parce qu'on était tous citoyens et on manifestait notre opposition à ce projet. Donc la question peut se mettre dans ce contexte-là. On peut dire des choses pour essayer de faire pour le mieux pour le bien-être de la société. Mais sachons que la vraie réponse, c'est la conversion. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui,
mais sont dans le même sens, mettons, parlant de l'homosexualité, qu'est-ce que l'Église doit faire avec ces gens-là? Parce qu'on sait que c'est péché, mais il reste qu'une personne, son identité, c'est plus qu'être homosexuel. Comment l'Église est capable de
faire? Oui. Bon, tu parles de quelqu'un qui n'est pas chrétien ou quelqu'un qui est chrétien ou quelqu'un qui s'est
convertit.
D'accord. Bon, je pense que la première chose à dire et à redire, c'est que dans un sens, on ne peut pas dire que l'homosexualité, c'est le pire de tout, il n'y a pas de pire péché, etc. Je lisais un texte biblique l'autre jour qui m'avait vraiment frappé. Il m'avait fait un coup d'ailleurs. C'était ce qui dit, « Bien que les gens connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. » Et c'était quoi? Rapporteur, médisant, arrogant, hautain, fanfarons, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, etc. Dignes de mort. Ça, c'est Romains chapitre 1. Juste avant le verset 22. Premier point. Deuxièmement, je pense qu'il faut faire une différence entre la tentation et l'acte. Donc, en ce qui concerne le mariage pour tous, les gens m'ont posé des questions sur les homosexuels et j'ai dit, bon, pour nous, même si c'est légal, c'est un péché. Et qu'est-ce qui est un péché? C'est un péché de la même manière qu'un homme marié serait infidèle à sa femme. C'est un péché de la même manière qu'un célibataire qui couche avec quelqu'un, parce que le seul cadre où la sexualité doit être vécue, c'est le cadre du mariage. Donc c'est très clair dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lieu conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera deux choses, les débauchés et les adultères. Donc, les adultères, ce sont ceux qui ne sont pas fidèles alors qu'ils sont mariés. Les débauchés, c'est un mot assez difficile à traduire en fait en français. Il n'y a pas de mot qui veut dire c'est tout péché sexuel en dehors d'une relation homme-femme au sein d'un mariage. Donc, ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui se convertit et qui dit « J'ai des pulsions homosexuelles, mais maintenant je suis chrétien. Je ne veux pas céder à ces pulsions. Je ne dis pas que c'est un péché. Pas plus que quelqu'un qui est, admettons, célibataire chrétien, qui peut être tenté aussi par l'impureté. Vraiment de coucher avec quelqu'un. À moins que, et là on est dans les paroles de Jésus, que l'on pense à quelqu'un volontairement, et dit que ça c'est comme l'adultère, hein, quand on regarde une femme de cette façon-là. Et c'est volontaire. Ce qui fait que je connais quelqu'un qui est pasteur. Je faisais partie du comité qu'il a accepté comme pasteur. Il nous a expliqué c'est certaines pulsions sexuelles, mais il a dit, mais moi, tout comme tout célibataire, je refuse absolument d'aller dans ce sens. On l'a accepté comme pasteur. Il est toujours pasteur plusieurs années après, sans problème. Parce qu'il faut faire la différence. On est tous tentés de toute manière, en quelque sorte. On ne sait pas pourquoi certaines personnes sont beaucoup plus orientées vers l'homosexualité que d'autres. On soupçonne des éléments de leur vécu étant petit, famille, on ne sait pas. Personne ne sait vraiment, à mon avis, d'après ce que je comprends. Mais ce que le chrétien veut, c'est ne pas désobéir dans ses actes à Dieu. Voilà quelques réflexions sur le thème. D'autres questions?
Et peut-être sur la même question, et je sais que, en tant que chrétien, la réflexion doit être de plus en plus importante, c'est mon impression, mais pour ce qui est des, mettons, des familles gays, okay, c'est-à-dire deux lesbiennes qui, même au Québec maintenant, peuvent être mariées. Qui sont pécheurs sans exprimer du dégoût, un peu comme un couple qui vit dans le péché. Je veux dire, un homme et une femme qui ne sont pas vraiment mariés ou qui sont divorcés, remariés, on les accueille, on veut qu'ils entendent l'évangile, on ne va pas, même, on est. Est-ce que tu me suis là-dessus?
Je comprends, oui.
Mais je pense que beaucoup de nos églises, on n'est pas du tout prêt à voir un couple gay franchir la porte de notre église. Je pense que les gens vont paniquer. Mais je crois que ça s'en vient parce que le nombre augmente. Enfin, je pense que
Bon, on a eu dans notre église des individus, en tout cas. Homosexuel. On n'a pas eu le cas d'un couple que je sache, mais des individus en tout cas. Je pense que la vieille distinction tient déjà de aimer le pécheur, mais haïr le péché. Donc ça reste vrai, on aime la personne. Et ce qui n'empêche pas à un certain moment de faire connaître ce qu'on pense. Mais parfois, il faut le faire avec une certaine sensibilité. Donc une autre histoire que Marie connaît bien, qui n'était pas tout à fait la même chose, mais qui montrait le besoin de sensibilité. On a connu un couple, donc non mariés, qui étaient ensemble, ils sont venus à notre église à Nancy. Elle était d'origine maghrébine. Elle s'est mise en concubinage pour quitter l'islam et devenir chrétienne. Parce que dans sa tête, sa représentation mentale musulmane, elle avait la religion de l'homme avec lequel elle était. Alors, si on est arrivé avec nos gros sabots là, c'est sûr qu'elle aurait fui, certainement. Donc, j'ai commencé à faire des études bibliques de base avec ce couple, si on veut. Et au bout d'un certain temps, j'ai été public, ils ont dit, on a une question. Je pense qu'on n'est pas vraiment en règle. Donc, c'est eux qui ont abordé la question. C'était le bon moment. Et donc, après, ils se sont mariés, ils ont baptisé. Donc, voilà. C'était le bon ordre, en quelque sorte. Alors maintenant, bon, ça, c'est un cas hétérosexuel. Qu'est-ce qu'on fait pour un couple marié homosexuel? On s'est posé la question en France, au CNEF, et donc le théologien Henri Blocher, que vous connaissez peut-être, mais c'est le plus grand théologien du monde, et c'est un Français, donc... c'est bien. Donc, lui, il nous a répondu, à notre avis, à mon avis, on va faire quelque chose qu'on n'aurait jamais cru qu'on devait faire, c'est demander à ce qu'ils divorcent, s'ils se convertissent. Parce que ce n'est pas un mariage selon Dieu. Maintenant, l'autre question qui reste, admettons qu'ils ont des enfants ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut permettre à ce qu'ils restent ensemble, mais sans avoir d'intimité sexuelle, pour pouvoir élever ses enfants en tant qu'amis? Je ne sais pas, peut-être qu'il faut chercher des solutions, je ne sais pas. On n'est pas encore là. Et souvent, dans le travail pastoral, je pense souvent qu'il faut enseigner, il faut mettre la part la plus haute possible dans tout l'enseignement. Et parfois, dans le vécu, il faut trouver la façon de faire, parce que les choses sont très complexes des fois. Il faut donner le temps au temps, mais il faut que l'enseignement soit clair au départ, de toute façon. Oui? Je pense que je réponds à la question et je rebondis aussi sur l'autre question parce que c'était bien. Beaucoup de rebondissements. alors là, pour moi, enseigner, bon, j'ai l'habitude, surtout dans l'Église, d'enseigner chapitre après chapitre après chapitre. C'est une bonne chose parce que je tombe sur le texte, j'y peux rien, c'est le texte qui arrive. Donc c'est très bien. C'est un grand avantage. Je ne sais pas si tu te souviens, comment tu as commencé la question? Quelqu'un qui est homosexuel ou quelque chose comme ça. C'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est qu'un homosexuel? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'est vraiment? Est-ce que c'est quelqu'un qui, de temps en temps, a eu quelques pensées ou je ne sais pas quoi? Parce qu'on a connu au moins deux personnes qui sont converties et qui ont dit... Plus ou moins, je croyais être homosexuel, maintenant je suis converti, c'était plutôt une sorte d'identité que j'avais prise parce que tout le monde pensait comme ça. Donc, c'est pas évident de savoir ce que c'est qu'un homosexuel. Est-ce que c'est quelqu'un qui a quelques pulsions, quelqu'un qui pratique, quelqu'un qui le croit, quelqu'un qui le dit? Je pense que quelque part, il ne faut pas que l'on tombe complètement dans le piège. On est face à un être humain. Et cet être humain a un certain nombre de difficultés. Et je n'aimerais pas, en quelque sorte, mettre une étiquette sur la personne. Autrement, par exemple, qui dirait, je ne sais pas, je change complètement, quelqu'un qui vient dans l'église qui est voleur, est-ce que je vais continuer à dénoncer le vol? Mais la personne va dire, mais je ne suis pas que ça. Peut-être j'ai volé une fois mon employeur, mais m'appeler un voleur, c'est lui donner un titre, une sorte de rôle quelque part qui n'est pas juste. Et je me méfie un petit peu de plus en plus, je ne sais pas quelle est la solution quand on dit un homosexuel. Parce que c'est aussi un être humain. Et si on le réduit à ça, ce n'est pas bien ni pour lui ni pour nous, je pense. Bon, ils ne sont pas nés de la famille directement, mais bon.
Ils sont adoptés.
Ouais.
Je voulais aussi poser la question. Moi, j'ai une amie à moi, je vais la penser quand. Je la connais pas mal. Elle a eu tous les problèmes du monde avec les garçons. Et elle est rendue au point où elle veut juste avoir son enfant. Et pour avoir son enfant, bah, elle m'a demandé, par exemple, est-ce que elle va faire la FIB, aller à la banque du ministère ou tout ça. Ou bien de trouver que je trouve parmi mes amis.
Je crois qu'il y a un certain nombre de choses, mais bien sûr, il faut vraiment examiner à fond chaque cas. Mais quand on regarde dans les églises, il y a des gens de tous bords, de toutes sortes. Si on commence à creuser, c'est vraiment passionnant entre les personnes et surtout quelqu'un qui se convertit un peu plus tard, alors qu'il est déjà eu un enfant par ici, un autre enfant par là, et puis ceci, et puis cela. Il faut faire un petit peu avec pour le mieux. Maintenant, la seule chose que je ne ferai pas, c'est être en quelque sorte... il faut éviter d'être malhonnête dans ce qu'on fait. Il faut dire la vérité. On a eu le cas une fois de quelqu'un dans mon église... d'un pays africain qui voulait faire venir donc je crois que c'était ses deux de ses nièces en France et qui avait déclaré sur le papier ce sont mes enfants. Et quand j'ai dit ben, c'est pas tes enfants, il dit ben, en Afrique c'est comme ben, c'est mes enfants. Il dit oui, peut-être, mais en France non. Donc on est tout le temps, bon, c'est un petit exemple, mais on est tout le temps en train de voir quelle est la meilleure chose à faire dans ces situations assez complexes. Donc, je ne peux pas me prononcer, bon, il y a tellement de choses. Mais je pense qu'il faut essayer de dire, voilà, il y a un passé. Si la personne s'est convertie, on a connu des personnes hétérosexuelles qui se convertissent, qui sont divorcées, les enfants viennent, on va les accepter quelque part. Mais je ne ferai rien de malhonnête. On avait une situation, bon, on a souvent cette situation en France avec des personnes qui, qu'on dit sans papier. Ils sont en France, mais sans papier. Et la plupart des pasteurs que je connais maintenant, je me place parmi eux, ont pris la décision de dire on ne pose pas de questions, ce n'est pas notre rôle. On est là pour s'occuper des. On n'a rien à faire pour les aider à avoir les papiers. Mais on ne va pas combattre non plus. Ça, c'est leur affaire avec l'État, avec le gouvernement. Nous, on est là pour les aider à comprendre la parole de Dieu, les accompagner dans leur marche spirituelle. Parce que ce n'est pas de notre métier, en quelque sorte. Je ne sais pas si ça répond pas forcément, mais bon, ce sont quelques réflexions, en tout cas. honneur aux femmes.
La première question, moi je connais un couple chrétien marié, ils ont eu des triplets dans le fond, puis elle a fait une chute, puis dans le fond elle les a perdus.
Ouais.
Puis eux autres ils ont été obligés d'aller dans une place à l'hôpital, que le gars de manière qu'il m'expliquait comment ça se passait, il n'a pas très trouvé ça intéressant. À l'hôpital, dans le fond, au lieu de prendre dans une donnée de sperme, n'a pas de sperme du mari, mais c'est comme le docteur qui l'a introduit. Alors, lui, il se sentait très bien, puis je me demandais comment c'était perçu sur les églises locales. Et aussi, moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui était homosexuel homme et qui est rendu une femme. Dans ma famille. Fait que je voulais savoir ça aussi, quand ils ont changé complètement de sexe, comment c'est perçu dans les églises. Et que ça
perd
un petit peu.
Oui, oui. Bon, c'est la même réponse un petit peu. C'est que il faut voir un petit peu chaque cas. Et je ne veux pas, ni moi, ni l'Église, faire quelque chose qui n'est pas honnête.
Ouais, c'est...
Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que... un couple homosexuel marié, on va peut-être les demander de divorcer, mais quelqu'un qui a changé de sexe, on va pas les demander en quelque sorte de revenir au point de départ. Ce serait un peu compliqué quelque part. Hein, donc, alors, la même chose. Bon, il y avait les eunuques au temps biblique, hein, qui n'étaient ni, on va dire, ni homme ni femme dans ce sens. Deux petites réflexions. D'abord, ça montre bien, comme on avait dit ce matin, le vrai problème d'identité que les gens peuvent avoir aujourd'hui. Vraiment, c'est un problème fondamental. Qui on est? On essaie de se fabriquer une identité. Est-ce que cette personne est plus heureuse comme ça? Je ne sais pas moi de juger. Mais on entend des fois des gens qui regrettent après ou d'autres qui disent c'est parfait. Mais une fois que quelqu'un est là, qui existe comme cela, la vraie question, comme d'ailleurs d'autres histoires comme l'islam, c'est une question spirituelle. Est-ce que cette personne est d'accord pour se reconnaître pécheur et demander la grâce de Dieu? Et c'est tout. Je pense que ça, c'est l'essentiel. Et on n'est pas au bout de nos surprises, je pense, des fois, de ce qui va se passer dans notre société aujourd'hui. Hein, ouais.
Le Proverbe 29, 18 mentionne
Quel livre ?
Proverbe.
Proverbe 29-28.
Tant qu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il y a une révélation, c'est, je pense, ça fait référence à sans vision. Oui. Là, on est dans le, pour moi, dans le, la même question que de dire comment je peux connaître la volonté de Dieu. C'est un peu la même question. Parce que, comment être sûr que l'on fait ce que Dieu veut ? Personnellement, je ne suis pas convaincu qu'il s'agit d'une sorte de puzzle pour trouver la volonté de Dieu qui nous la cache un petit peu, donc il faut trouver le petit moyen, le petit déclic pour le trouver. Ouvrir la Bible et puis mettre son doigt sur le texte pour voir la réponse qu'il va donner, ou bien se dire, ou demander des signes, ou je ne sais pas quoi. Je crois qu'il y a un certain danger avec tout cela, et je ne le vois pas tellement dans les Écritures. Par contre, je pense que Dieu nous donne énormément de liberté au niveau de nos églises à les organiser de différentes façons. Et c'est très bien. Parfois, on n'utilise pas cette liberté parce qu'on se met sur des rails, tout le monde fait comme ça, moi je fais comme ça, etc. Maintenant, si quelqu'un dit, moi j'ai la conviction qu'on doit faire ceci, et si pas j'ai une vision, cela veut dire cela, je n'ai absolument pas de problème. Et c'est très bien, parce qu'on est tous, différents, et peut-être quelqu'un qui est un vrai leader a la conviction de faire les choses d'une certaine façon, et si les autres veulent suivre dans ce sens-là, c'est très bien. Mais je me méfie un petit peu de dire c'est Dieu qui lui a donné cette vision et si on ne le suit pas, c'est qu'on est désobéissant à Dieu parce qu'on ne l'a pas suivi quelque part. Je crois qu'il y a un certain danger. Il vaut mieux être, comme je disais ce matin, être humain. Et être humain, c'est-à-dire on assume sa responsabilité. Et parfois, ce genre de spiritualité, c'est une façon de fuir le fait d'assumer soi-même sa décision en disant « c'est pas moi, c'est le Seigneur ». Et si ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas parce que c'est pas à cause de moi. Donc, quelqu'un qui a une nouvelle vision pour faire quelque chose, je préfère la vision dans un sens simplement dictionnaire, une certaine vue, quelque chose qu'il a vu, et s'il veut le faire, très bien, très bien. Mais restons humbles devant cela quand même, parce que parfois, j'ai connu des gens qui avaient des grandes visions et bon, ça n'a rien donné, c'est pas grave. Mais c'est grave si on dit que ça vient de Dieu, en quelque sorte. Jonathan.
J'ai une question, c'est peut-être que je ne veux pas trop étirer, mais je serais curieux de savoir, parce que vous avez parlé à une couple de reprises que vous aviez planté des églises. Donc, c'est bien sûr que je ne prends pas sur cette ligne-là.
Ah, je n'ai pas compris là, c'est sûr. D'accord, pratiquement, oui. Ouais. C'est pas comment on fait, mais comment le Seigneur a guidé pour le commencer, en quelque sorte. D'accord. Bon. Très bonne question. Parce que quand j'analyse, il y a toutes sortes de choses. Mais et je ne pense pas être en contradiction avec ce que j'ai répondu en disant ceci, qu'il y a eu différents éléments. La première église que j'ai commencée, on était simplement un groupe dont la plupart étaient étudiants. Et donc, on se réunissait le mercredi soir. Et un jour, une des jeunes filles est venue chez nous pour dire, mais pourquoi on ne se réunit pas aussi le dimanche et qu'on commence une église ? Je ne m'attendais absolument pas à ça. Il faut savoir, il y avait tout un contexte, hein, pour expliquer, tout un contexte. Et ces paroles, bon, j'ai partagé avec les autres. J'ai demandé l'avis d'autres pasteurs de l'église, de la ville. Ils m'ont dit, bon, vas-y, pourquoi pas, c'est bien. Il n'y a pas d'église dans ce quartier, vas-y. Donc, la deuxième église, c'était beaucoup plus par, je dirais presque par obéissance, si je peux dire comme ça, à la vision de notre union d'église, qui nous poussait à faire des essaimages, donc à partir de l'église mère, et je voulais essayer. Bon, l'église était d'accord, ils ont voté, donc on fait un essaimage. Donc la deuxième fois, c'était par une sorte de projet de la mission. La troisième fois, c'est parce que on m'a demandé de monter à Paris, comme on dit, pour rejoindre l'équipe de direction de France Mission. Et on s'est dit, donc, on veut rester dans notre conviction, notre vocation d'implanter l'Église. Donc là, c'était tout autre chose. On a acheté une grosse carte de Paris, plein de punaises de couleurs différentes, qu'on a mis un peu partout pour les différentes unions d'églises et tout ça, en priant que le Seigneur nous montre des trous. Et donc, quand on a vu qu'il y avait un trou, qu'en même temps, deux couples qui habitaient là ont dit « on voudrait qu'une église commence », et en même temps, sans qu'on le sache, une association qui travaille parmi les enfants dit « on met notre salle à disposition pour commencer une église », bon, l'ensemble des choses ont mené à cela. Alors que là où je suis actuellement, c'est beaucoup plus la direction du Seigneur, je ne m'attendais pas. J'étais en Martinique, bizarrement, et pour le GBU, et juste avant une réunion dans une église, le pasteur m'a amené dans son bureau et m'a dit, dis donc, qu'est-ce qui se passe dans cette église à Paris? J'ai entendu qu'ils vont mettre la clé sous le paillasson, il faut faire quelque chose. Et tout de suite, il dit, moi, donc c'est ça que je dois faire. Donc, je ne peux pas l'expliquer. Mais cela dit, c'est après, donc j'ai rencontré l'église, j'ai rencontré d'autres personnes pour avoir leur avis. Donc ce n'est pas en contradiction à la réponse que j'ai donnée, même s'il y avait un élément un petit peu plus surnaturel dans la façon dont ça s'est passé, il y avait quand même la confirmation d'autres, c'est, je disais non, on y va ensemble vers le projet. Voilà. Donc quatre figures assez différentes en fait. Oui. Je ne suis pas sûr quelle était la question là.
Je demandais en France, c'est comment pour être authentique.
Ah, comment être authentique?
Moi, je me demande si cette personne-là décide de se remettre.
j'ai l'impression que quand quelqu'un se sent vraiment accepté et aimé, qu'on peut dire beaucoup. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, pour arriver à ça, peut-être qu'il faut un certain temps, il faut le montrer pratiquement, mais je pense que ça, c'est possible. Et le deuxième point, pour être authentique, ça veut dire vraiment être soi-même. Et je pense qu'une des choses les plus difficiles à apprendre dans la vie, c'est être tout simplement soi-même. Parce qu'on prend modèle souvent sur les autres, ce qui n'est pas forcément mauvais, hein, parce que dans la Bible, hein, Paul a dit « suivez mon modèle », etc. Mais à un certain moment, dans la maturité que l'on doit avoir, cette croissance, donc c'était question dans Ephésiens 4, même si bon, vous avez parlé de la stature parfaite de Christ, donc cette maturité fait que, voilà, maintenant j'ai assumé ce que je suis. Je ne suis pas quelqu'un d'autre, je suis moi-même. Et je vais être moi-même. C'est pas facile. On peut souvent jouer le jeu, jouer un rôle quelque part, parce que c'est bien, tout le monde dans mon église, ils font comme ça, mais non, il faut être soi-même. Donc c'est aussi authentique. Donc je dirais, l'amour authentique pour les autres et être soi-même, vraiment ce que l'on est. Tout dépend de la doctrine. Il y a des doctrines au cœur, enfin, le noyau en quelque sorte est essentiel. Si on n'est pas d'accord, il y a un vrai problème. Après, il y a différentes façons de voir les choses. Et, j'aime bien dire dans mon église, okay, tout le monde a forcément la même idée que moi sur l'eschatologie, donc la façon dont les choses vont se passer à la fin des temps. Il y a certainement différentes idées au sein de mon église, mais bon, on vit avec ces différences, c'est pas un gros problème. Mais on en a parlé tout à l'heure, hein, donc tu m'as posé une question assez intéressante, donc je sais pas si c'est un peu par rapport à ça. Admettons que le pasteur va dire quelque chose, on n'est pas tout à fait sûr que de cela. Si on va en parler avec quelqu'un d'autre, est-ce que c'est une sorte de médisance parce qu'on va le critiquer? Bon, c'est pas ça que je voulais dire. On va discuter avec d'autres en restant le plus neutre possible. Qu'est-ce que tu as compris quand il a dit ceci? Ou même aller voir la personne, le pasteur, pour dire « je voulais clarifier ce que tu as dit, est-ce que tu peux m'expliquer de nouveau ce que tu voulais dire ?» Si après on est toujours d'accord pour dire « bon, moi je vois ceci ou cela, qu'est-ce que tu penses ?» Donc, on est quand même dans une vraie démarche de dialogue. Parce qu'il n'y a rien de pire, en fait, que ce que l'on dit derrière le dos de quelqu'un. Et là, je vais citer mon copain Blaise Pascal, parce que j'ai écrit un livre sur lui, et il a plein de petites phrases comme ça. Mais une des phrases, c'est « Je pense que... si tout le monde savait ce que leurs amis disaient quand ils ne sont pas là, il ne resterait plus 4 amis dans le monde. » C'est un peu vrai. Donc c'est très facile d'aller discuter avec quelqu'un d'autre, mais il vaut mieux voir la personne en question le plus détendue possible, avec toute la douceur, hein, comme dit les Écritures.